Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Monsieur Jean-Marie Collin, vous êtes expert sur le désarmement nucléaire et porte-parole pour la France de l'ICAN. L'ICAN, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui est lauréate du prix Nobel de la paix 2017. Et votre organisation vient de publier un rapport qui démontre que les puissances nucléaires ont accru considérablement leurs dépenses sur l'armement nucléaire en pleine pandémie. Et vous observez cette tendance alors que partout à travers le monde, la plupart de la population désire et demande la non-prolifération. Bonjour et bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Monsieur Collin.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Et voilà, je vous demanderai tout d'abord de commenter sur cette augmentation considérable des dépenses sur le nucléaire en pleine pandémie.
Oui, effectivement, c'est la deuxième année maintenant que ICAN réalise un rapport sur les dépenses mondiales pour les armes nucléaires et on s'aperçoit que les dépenses se poursuivent, mais en plus, on s'aperçoit que selon les prévisions budgétaires de ces différents États, en tout cas de ceux sur lesquels on arrive à avoir des chiffres à peu près transparents, ces dépenses vont continuer de s'accroître. Donc je dirais que malheureusement, ce n'est que le début. Pour 2020, c'est chiffré à un peu plus de 72 milliards de dollars, ce qui est une somme évidemment extraordinairement importante, sachant que la grande majorité de cette somme est dépensée aujourd'hui par les États-Unis. Et si je prends l'exemple de la France, qui est une puissance nucléaire dite moyenne, mais qui est la première puissance nucléaire sur le continent européen et qui possède 300 armes, cela représente un peu plus de 5,7 milliards de dollars. Et on s'aperçoit que sur, comme je le disais en introduction, sur les 4 prochaines années, la France va dépenser à peu près plus de 32 milliards de dollars sur les armes nucléaires, puisqu'elle est engagée sur un programme de renouvellement de son arsenal nucléaire. Et c'est véritablement ça le problème finalement qui est pointé à travers ce rapport, c'est que c'est bien sûr une quantité d'argent énorme qui est dépensée, mais c'est surtout que ces sommes d'argent planifiées vont se poursuivre de façon très intensive.
Et vous observez que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires fait désormais partie intégrante du droit international et bénéficie même d'un très large soutien mondial. Ce qui est significatif, c'est qu'il y a aussi d'anciens leaders de l'OTAN qui soutiennent la non-prolifération, mais vous observez que les décideurs eux vont dans le sens contraire.
On est effectivement depuis 4 ans dans une absence de volonté de compréhension de ce traité et d'un rejet total de la part de l'organisation en elle-même, de l'Alliance Atlantique, d'un certain nombre d'États qui sont membres de cette Alliance Atlantique et en premier duquel la France et le Royaume-Uni. À côté de ça, on a les autres États qui sont membres de cette Alliance, à la fois des prises de position de plus en plus importantes de l'opinion publique, de municipalités, d'anciens leaders d'acteurs, soit directement de l'OTAN, des secrétaires généraux ou des anciens ministres des Affaires étrangères ou des premiers ministres, qui tous manifestent et expliquent que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires doit être un traité qui doit être pleinement discuté au sein de l'OTAN, qui est en pleine adhésion avec les objectifs et les buts de l'OTAN, puisque l'OTAN revendique à chaque sommet, et là dans 2 jours en Europe, à Bruxelles, il y a un sommet de l'OTAN, et revendique donc à chaque fois que l'OTAN doit travailler sur l'élimination des armes nucléaires et qu'à terme, à la suite de ce désarmement, elle ira à l'élimination de ces armes nucléaires. Et donc l'OTAN en ça est parfaitement en adéquation. Et pour revenir, pour donner quelques exemples, pour montrer la manifestation de l'opinion publique à travers ces différents États, il y a eu des sondages qui ont été réalisés par ICAN qui montrent que, par exemple, en Belgique, en Allemagne, le taux de la population qui est en faveur de l'adéquation du TIAN est extrêmement important et supérieur à 80%. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de l'opinion publique qui est majoritaire, comme vous avez un très très grand nombre de villes qui soutiennent, à travers la campagne de l'appel des villes, cette volonté d'adhésion au traité.
Et parmi ces leaders, parce que vous en dénombrez une cinquantaine, quelles sont les figures les plus en vue, celles qu'on connaît le mieux
Vous avez par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Lord Ashworthy, qui a signé cette lettre qui a été adressée le 21 septembre 2020. Vous avez Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Vous avez d'anciens ministres des Affaires étrangères également de Pologne. On sait que la Pologne a plutôt une vision très favorable, d'une manière générale, en faveur des armes nucléaires. Vous avez Ana Palacio, l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Vous avez Knut Vollebæk, un ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège. Un ancien premier ministre de Belgique, M. Guy Verhofstadt. Vous avez vraiment un ensemble d'anciens premiers ministres et ministres ou ministres des Affaires étrangères ou de la Défense des différents États membres de l'OTAN, ce qui montre qu'il y a une prise de conscience de la part de ces personnes et il y a une volonté d'avancer vers un monde plus sûr, puisque c'est bien ça que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires offre à l'ensemble de la planète, à l'ensemble de l'humanité. C'est la capacité d'interdire et d'engager l'élimination complète et totale des armes de destruction massive les plus destructrices et les plus horribles que l'être humain a finalement créées. Et c'est là-dessus que justement ce traité travaille et vient en complémentarité avec les différents autres traités qui existent dans le régime global de non-prolifération et qui est notamment le premier d'entre eux, le traité de non-prolifération nucléaire.
Et ce qui est aussi original là, dans votre déclaration, d'après votre rapport, c'est qu'il y a aussi des villes qui s'expriment en tant que telles, y compris même Paris.
Tout à fait. On a depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, un appel des villes mondiales a été lancé et il a été initié par mes collègues de ICAN Australia, donc a commencé chez vous en Australie. Et depuis, c'est propagé à l'ensemble des États qui disposent ou qui soutiennent la politique de dissuasion nucléaire, donc des États membres de l'OTAN, notamment en France. Effectivement, on va arriver à prochainement, très très prochainement, à obtenir 50 villes. Aujourd'hui, on doit être à 48 exactement, pour tout vous dire, qui soutiennent ce traité. Et Paris a décidé de signer cet appel des villes, a été la première ville qui a signé cet appel il y a 2 ans maintenant. Quand nous sommes arrivés à faire signer Paris, c'était une grande victoire pour nous. C'est un grand geste politique, une grande image importante, puisque c'est la capitale de la France, qui engage un mouvement pour expliquer que les armes nucléaires visent finalement la ville de Paris et que la ville de Paris a besoin de faire connaître et de faire comprendre l'importance du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et depuis, on a de nombreuses grandes villes. On a la deuxième ville de France, la ville de Lyon. On a des villes comme Grenoble, qui a un temps été célèbre pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 1968. On a une cinquantaine de villes, de très grandes communes, de très grandes villes et de toutes petites communes. Mais ce qui prouve que chaque maire de ces villes, qu'ils aient une centaine d'habitants ou 1 million d'habitants, ont conscience du danger des armes nucléaires et ont décidé de faire connaître l'importance du traité et de créer une pression auprès du gouvernement, parce que c'est pas simplement une signature qu'ils font, et c'est ça qui est vraiment important, c'est que certaines de ces villes ont également envoyé des lettres au ministre des Affaires étrangères, au président Macron, pour demander à ce que le traité d'interdiction sur les armes nucléaires soit le plus rapidement ratifié par la France.
Pourquoi, selon vous, il y a une opposition au traité de non-prolifération alors que, bon, là, parmi donc, la population et les villes, les institutions s'expriment, mais qu'est-ce qui explique l'opposition à ce traité ?
Il y a une sensation qu'ils perdent le pouvoir, finalement, ces États qui, jusqu'à aujourd'hui, dirigeaient l'ensemble des négociations au sein de l'ONU. Cette sensation de perte de pouvoir est peu appréciée, mais surtout il y a beaucoup d'idées reçues et de mythes qui reposent sur le traité. Et malheureusement, c'est ce qui a été créé par ces États qui possèdent des armes nucléaires, qui sont restés ancrés dans des pensées de la guerre froide, c'est-à-dire que c'est avec des armes nucléaires que l'on a une puissance importante ou que l'on peut se défendre, alors que de nombreux exemples historiques montrent bien que même si vous possédez des armes nucléaires, votre État n'est pas en sécurité totale à 100%, que ça pose évidemment énormément de problèmes par rapport à l'environnement, que c'est une dépense d'argent extrêmement importante, que évidemment ça ne résout en rien la réalité des problèmes que les États du 21e siècle subissent, par exemple, et subiront de plus en plus le changement climatique, et puis surtout que c'est en adéquation avec le traité de non-prolifération nucléaire qui oblige les États qui l'ont ratifié à engager des armements nucléaires. Donc on reste dans une pensée qui est ancrée dans le 20e siècle et qui est encore difficile à faire adapter, à faire changer. Moi, je le vois en discutant, en faisant un travail de plaidoyer avec les parlementaires, c'est extrêmement compliqué de leur montrer la réalité des armes nucléaires, puisqu'il y a véritablement un historique qui est ancré dans l'esprit de ces personnes, comme quoi l'arme nucléaire est quelque chose de positif, alors que bien évidemment l'arme nucléaire est quelque chose d'extrêmement négatif.
Oui, ça soulève un concept vraiment aberrant, le concept de destruction mutuelle assurée. Et si on sait qu'on va se faire détruire également, pourquoi posséder une telle arme ?
Exactement. Et puis, c'est la volonté de croire aussi qu'on n'utilisera jamais cette arme. Et ça, c'est complètement aberrant de penser que jamais on utilisera cette arme, puisque ça signifie que dans l'esprit de ces personnes, donc si c'est du « jamais », il n'y aura pas ces conséquences humanitaires. Or, on ne peut pas être sûr à 100% que l'on n'utilisera jamais cette arme. Et puis surtout, il n'y a pas simplement le risque d'emploi de l'arme nucléaire. Il y a aussi tous les risques éventuellement d'accident ou d'usage accidentel qui pourraient engendrer aussi des conséquences humanitaires, qui pourraient engendrer des conséquences sur l'ensemble de la planète. Donc, on est véritablement sur des mythes sur les armes nucléaires et sur des idées reçues concernant le temps, comme quoi ce traité ne serait pas assez fort en termes de vérification, par exemple, ou ne serait pas compatible avec le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, on a véritablement dans nos États, et je pense aussi à l'Australie aujourd'hui, qui est aussi un État qui ne soutient pas le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, à faire un vrai travail d'explication auprès de nos parlementaires. Et nous, c'est ce que nous faisons en France. Je sais que mes collègues en Australie font exactement la même chose et de façon très performante aussi en Australie auprès de différentes villes et différents parlementaires. Et c'est ce que l'on va continuer pour obtenir que nos États ratifient le traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
Voilà, monsieur Jean-Marie Collin, vous êtes expert sur le désarmement nucléaire et porte-parole pour la France de l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui et de nous éclairer sur ce phénomène ou fléau, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui menace la planète tout entière.
Merci beaucoup, avec grand plaisir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.